Chapitre 3e. Les sous dans l'escalier. Nous avions franchi une porte qui nous mit en face d'un escalier. Cet escalier s'enfonçait sous terre. « Allons voir ça, » dit Martin Numa. « Nous le suivons, Julot et moi. » Après s'être enfoncé, cet escalier remontait, puis un couloir apparaissait, couloir assez long qui tournait. Au bout d'un certain temps de marche, dans ce couloir, nous nous trouvons en face d'un autre escalier. « Montons, » fit Martin Numa, « c'est très curieux. » Nous montons pour redescendre bientôt après et nous trouver encore dans un couloir. Ce couloir nous conduisit à un nouvel escalier. « Oh oh !» fit le roi des détectives. « Nous n'en sortirons jamais. » Ça m'en a l'air. « Croyez-vous vraiment que ce soit le même escalier ?»« Pas de doute. » »« Mais où est la porte par laquelle nous sommes entrés ?»« La porte est masquée fort adroitement. » »« Alors nous sommes prisonniers ?»« À peu près. » »« Diable ! Rassurez-vous, mon bon Courville. Nous ne le serons pas bien longtemps. » Qu'allez-vous faire? Je pourrais taper au mur pour reconnaître le creux, le bois nu ou le fer de la porte, mais je ne veux pas faire de bruit. Nous allons nous guider à vue de nez. Martin Numa ajouta, établissons d'abord la situation. Il consulta une boussole breloque qui pendait à sa chaîne de montre. Bon, fit-il. Maintenant, allons. Nous devons fatalement passer sur nos pas ou sur nos têtes sans nous en douter. J'ai pris le point, la position, en route. Nous voilà marchant rapidement dans ce souterrain. De temps en temps, Martin Numa disait « Bon, nord, nord-ouest, sud à gauche. » Il me dit « C'est bien ce que je pensais. Nous revenons sur nos deux pas deux fois, et en sens inverse chaque fois. L'escalier est double. Parfait. C'est enfantin. Venez, un peu de jambes. Hop !» Nous nous remettons en route. Martin Numa consultait de temps en temps sa boussole. « Voilà, » fit-il. Nous allons retrouver l'escalier au haut duquel j'ai posé mon bâton. Montons ces marches. Voilà mon bâton. C'était exact. Donc, dit Martin Numa, si nous ne trouvons pas la porte de cet escalier, elle est inévitablement près de l'autre. Pour ne pas faire erreur, nous n'aurons qu'à laisser un signe ici et gagner l'autre escalier. Nous cherchons, nous tâtons les murs et nous ne trouvons rien. Bon, fit Martin Numa sans trouble. Alors c'est à l'autre. Mais avant d'aller là-bas, faisons ici une marque pour le cas où nous aurions refait le chemin sans nous en douter et où nous serions revenus sur nos pas malgré nous. Martin Numa tira deux gros sous de sa poche et les mit sur l'une des marches de l'escalier de pierre. Les deux sous n'étaient guère apparents. « Mon cher Courville, me dit-il, je pourrais mettre là un signal plus apparent, plus visible. Je pourrais mettre une cigarette, un papier, un mouchoir dont le blanc trancherait avec le noir de cet escalier humide, gluant. Mais je ne veux rien laisser de personnel, rien qui puisse faire reconnaître que des étrangers sont venus ici. Alors je mets ces deux gros sous. Rien n'est plus anonyme que des sous, en effet. Admettons que le commandant, que ces hommes, quand ils vont faire des recherches pour savoir ce que sont devenus leurs prisonniers peintres, trouvent ces deux sous. Ils ne pourront leur donner de maître. Je les mets au défi de dire à qui ils ont appartenu et qui a pu perdre ces deux sous même dans un souterrain. Ici où passe cependant peu de monde. Donc le commandant ne peut reconnaître le passage de Martin Numa et doit croire que c'est lui ou quelqu'un des siens qui a laissé tomber ses sous. Très juste. Et pour nous, ils nous guideront suffisamment. Nous revoilà en chemin. Bientôt, nous nous trouvons en face d'un escalier. Martin Numa se baissa, tâta les marches. « Les deux sous y sont, » fit-il. « Les voilà. » Le problème devenait inquiétant. Mais Martin Numa se mit à rire. « Je vais comme un enfant, » dit-il. « Je vous demande pardon. » « J'ai eu une distraction. Suivez-moi. Cette fois, nous ne pouvons nous tromper. » « Nous repartons. »« Attention !» nous dit Martin Numa. « C'est ici que je me suis trompé. Au lieu de continuer à descendre, de suivre la pente du souterrain, nous devons monter. Marchons à reculons pendant un moment. » Nous marchâmes comme il l'indiquait. Tout à coup, il nous dit « Maintenant, nous pouvons aller droit. Nous sommes dans le bon chemin. Nous n'allons pas tarder à trouver l'escalier. L'escalier sans les sous. » En effet, quelques instants après, nous nous trouvons en présence d'un escalier. Nous cherchons les sous. Les sous n'y étaient pas. Alors, Martin Numa nous donna l'explication du mystère, la clé du labyrinthe. « Il est composé, nous dit-il, de trois cercles à peu près égaux. Mais le cercle du milieu est plus bas que les deux autres, de sorte que quand on part d'un escalier, on descend, on suit la pente, on tourne et on remonte ensuite. Mais on remonte dans le même cercle. Et on revient au même escalier infailliblement. » « C'est vrai. pour ne pas subir cet effet d'entraînement qui nous ramènerait au point de départ, comme cela nous est d'ailleurs arrivé, qu'avons-nous fait? Avec ma boussole, j'ai relevé 3 tours complets d'aiguille, ce qui m'a indiqué par conséquent 3 cercles exacts. Donc, ayant marqué un des escaliers, si parfaitement égaux qu'on ne les distingue point, nous nous sommes mis en route. Quand l'aiguille de ma boussole a fait un demi-tour sur le cadran, j'ai calculé que nous avions fait le 6e de notre course. Nous ne devions pas laisser faire un tour complet à l'aiguille sans revenir à notre point de départ. Très clair, nous aurions fait un cercle. Par conséquent, regagné l'endroit, nous étions partis. C'est pour cela, pour que mon aiguille de boussole garde sa position, que nous avons pendant quelque temps marché à reculons. De la sorte, nous nous sommes engagés dans un couloir qui remontait sur nos pas, nous avons continué notre chemin, faisant un second demi-cercle. Ce qui nous amena au tiers du chemin. Nous avons repris notre route, gardant toujours le sens de notre boussole, et nous sommes arrivés au bon escalier, que voici. Martin Humain nous dit alors, « Le problème à résoudre pour sortir de ce dédale est assez ingénieux dans sa simplicité apparente. Voyons. Le secret est de ne jamais faire un tour complet. Nous avons, nous, fait 3 moitiés de cercle, plaçant 2 en haut, 1 en bas, celle qui doit donner sur la porte par laquelle nous sommes entrés ici. » Julot s'était mis, tout en écoutant la démonstration de son chef, à chercher la porte. Il ne fut pas long à la découvrir, parfaitement dissimulée dans la muraille. Peu après, avec un soupir de soulagement, nous sortions de ce souterrain. Comme nous rentrions dans la grande salle, nous vîmes Prosper et les 2 peintres qui nous attendaient. Martin Huma dirigea vers les peintres le rayon de sa lampe pour me les montrer. Je ne pus retenir un cri de surprise. Il me sembla vraiment avoir en face de moi, sous mes yeux, mon ami Martin Huma et Prosper, quand je les accompagnais dans la forêt de Fontainebleau et qu'ils faisaient leur tableau. « C'est bien nous, » me dit Martin Huma en riant. « Oui, oui, c'est absolument vous. Bon, maintenant filons. Nous n'avons plus rien à faire dans cette admirable maison. » Peu après, nous retraversions le parc et nous regrimpions à l'échelle de corde pour franchir le mur et descendre de l'autre côté. Une fois dans la rue, la petite troupe s'éparpilla suivant un ordre donné, une consigne établie. Julot, qui venait en dernier, eut soin de ne laisser derrière nous, dans le parc, aucune trace de notre passage. Martin Huma prit cette précaution de faire établir la fermeture de la porte et du volet qu'il avait si adroitement ouvert pour pénétrer dans la maison. « Jamais, dit-il, jamais ils ne devineront que nous sommes venus chez eux. » Martin Huma tenait essentiellement à ce que le commandant crût à l'évasion pure et simple de ses peintres prisonniers. Cela afin de ne pas donner au commandant le moyen d'acquérir la certitude que les peintres faisaient partie des hommes du roi des détectives, et pour que le doute, l'inquiétude, demeurasse entier chez lui. Dans la matinée, les 2 hommes à qui incombait la charge de garder la vieille maison et de veiller sur les prisonniers se réveillèrent. Mais en jetant un coup d'œil sur leur montre, les 2 hommes dans leurs chambres respectives poussèrent un cri d'étonnement. « Midi moins quelques minutes !» Ils s'habillèrent donc rapidement et se retrouvèrent dans le petit salon où ils se réunissaient le matin. Ils eurent à peu près le même cri. Ils dorment peut-être encore. Ils passèrent dans la bibliothèque, dans le fumoir, dans le grand salon enfin, dans la pièce qui communiquait avec le jardin. Tout était fermé, tout se trouvait en l'état où la veille ils l'avaient laissé. « Ils ne sont pas descendus, » firent les 2 gardes. Ils montèrent alors aux chambres des peintres. Les portes des peintres restaient fermées. « Et là, on dort encore ? Il va être midi. » Mais, n'obtenant pas plus de réponse qu'au premier moment, ils se décidèrent à ouvrir la porte. Le même cri de stupeur s'échappa de leur gorge contractée. « Vide ?» Les peintres étaient partis. Un espoir restait aux gardiens. « Peut-être sont-ils dans le parc ?» Aussitôt, ils redescendirent. Ils parcoururent les allées, appelant les peintres prisonniers. Naturellement, ils n'obtinrent pas de réponse. Alors, ils commencèrent à non plus seulement avoir de l'inquiétude, mais à être littéralement affolés. Tout à coup, la même pensée jaillit dans le cerveau surexcité des 2 gardes. « Que nous sommes bêtes !» s'écrièrent-ils. « Nous ne pensons pas au seul endroit où ils peuvent être allés qui soit accessible, au souterrain. » On sait en effet que le souterrain n'était fermé que par une porte facilement accessible. Les 2 gardes, comme tous les gens qui n'ont plus qu'un espoir, et veulent croire qu'en lui et leur salut, en toute confiance, certains de ne pas se tromper, coururent au souterrain et le parcoururent en tous sens. Force leur fut de reconnaître l'inanité de leur recherche. Pas plus que dans la maison, pas plus que dans le parc, les peintres ne se trouvaient dans le souterrain. Constatée cette fuite, ce n'était que la première partie de cette aventure aussi inattendue que désagréable. La plus terrible était la seconde, celle du rapport au commandant. Les deux gardes tremblaient déjà. Ils tirèrent au sort celui qui irait annoncer au chef que les peintres s'étaient envolés. Le commandant entra dans une colère folle, dans un accès de rage impossible à décrire. Puis il demanda, redevenu plus calme, tous les détails possibles. Enfin, ne voulant pas encore une fois laisser croire à ses hommes que Martin Numa venait de remporter une nouvelle victoire, il déclara qu'il ne fallait ne voir là qu'une évasion pure et simple. Elle ne devait avoir aucune conséquence, puisque dans ses projets, il avait promis de rendre la liberté aujourd'hui ou demain à ces peintres qui ne faisaient nullement partie du personnel de Martin Numa. Cependant, en son fort intérieur, il gardait cette conviction que le roi des détectives avait machiné tout cela et avait une fois de plus gagné la partie. « Allons, se dit le roi des bandits, j'ai une revanche de plus à prendre. »